Père Céleste, le verset qui me vient vraiment ce matin, c'est ce que dit Pierre à propos des propos de Paul. Paul a des choses difficiles à comprendre, des choses subtiles, et que si l'on est mal affermi dans la foi, alors on peut tordre ces choses-là pour notre propre ruine. Et donc Seigneur, je te le demande déjà pour moi-même, si ce que je dis ce matin est tordu, eh bien Seigneur, qu'il n'en reste rien. Et par contre, si ce qui est partagé ce matin est bien conforme, non seulement à la lettre de ta parole, mais aussi à l'esprit de ta parole, alors Seigneur, fais-nous grâce d'accompagner cette parole par ton esprit, car ton esprit n'accompagne que la parole de Dieu, certainement pas la parole de l'homme. Et je suis toujours conscient, et je le répète à chaque fois, que celui qui enseigne les autres sera jugé plus sévèrement. C'est vraiment avec cette crainte-là que je me tiens devant l'assemblée ce matin, et d'abord et avant tout devant toi, au nom de Jésus. Amen. Donc, le message d'aujourd'hui va prendre le relais de ce que l'on a dit la dernière fois. Et plutôt que d'avancer dans l'épître de Jacques et tourner d'emblée au chapitre numéro 3, je vais rester sur un passage du chapitre 2, qui est ce que Jacques dit, donc pour illustrer que la foi seule reste morte s'il n'y a pas l'accomplissement de la foi dans une œuvre, et je vais immédiatement préciser laquelle, cette foi reste vaine et morte. Que dit Jacques dans son chapitre 2 ? Donc je reprécise ce que j'ai dit la dernière fois pour que ça soit absolument bien clair pour tout le monde. La pensée biblique, je le pense, peut s'organiser toujours en triades. Il y a les œuvres de la chair, les œuvres paillardes, dont il a été question ce matin, Galates 5. Il y a les œuvres de la loi, le païen paillard, le religieux, les œuvres de la loi, les œuvres de la chair. Et la troisième voie, qui renvoie à l'arbre de vie, il y a les œuvres de l'esprit, qu'on ne peut accomplir que si on marche par l'esprit. Ce sont des œuvres préparées d'avance par Dieu. Nous n'en avons pas l'initiative. La seule chose que nous pouvons faire, c'est obéir ou nous rebeller. Mais ce sont les choses que Dieu met devant nous, on y entre ou on résiste. Ce sont les œuvres de l'esprit. Donc toujours trois, et je vous montrerai d'autres structures ternaires comme ça, les œuvres de la chair, les œuvres de la loi, les œuvres de l'esprit. Celles que Jésus accompli au travers de nous, pourvu que nous devenions membres de son corps. Donc en clair, les œuvres de l'Esprit, ce n'est pas nous qui les accomplissons, c'est lui qui les accomplit en nous et au travers de nous. C'est comme ça que l'on peut comprendre facilement, tout ce que nous accomplissons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Ça veut dire, nous devenons membres de son corps, et c'est Jésus qui, depuis 2000 ans, continue à œuvrer, pourvu que nous soyons attachés à Jésus. Et ça va être le cœur du message de ce matin, puisque le but du message de ce matin, puisqu'on a souvent tendance à opposer Jacques à Paul, d'accord ? Jacques nous dit, sans l'œuvre de l'esprit, la foi seule est morte. Et on a souvent tendance à dire dans nos milieux, justifié par la foi seule. Alors que cette expression n'existe pas dans la Bible. On est justifié par la foi, mais Paul ne dit jamais justifié par la foi seule. Donc le but de ce matin, c'est comment est-ce qu'on concilie ce que dit Jacques avec ce que dit Paul. On est bien d'accord que les deux avaient leur personnalité, leur arrière-plan. Ah, si les deux textes sont dans l'Écriture, c'est qu'ils sont unis par l'Esprit de Dieu. Donc le but de ce matin, c'est voir comment est-ce que Paul explique exactement ce que dit Jacques, mais avec ses mots, lui. Bon, c'est ce qu'on va regarder ce matin. Donc, je commence à nouveau par Jacques. Jacques au chapitre 2, versets 20 à 24. « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? » On voit d'emblée que ce n'est pas de n'importe quelle œuvre dont Jacques parle. Je vais développer ça. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi est devenue mûre. Elle est arrivée à maturité. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture en Genèse 15. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Abraham crut à Dieu en Genèse 15. Tu auras une postérité aussi nombreuse que le sable de la mer. Et elle s'est accomplie en Genèse 22, lorsqu'Abraham était prêt à obéir à Dieu, fût-ce au prix du sang de son propre fils. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seule. Deux fois dans ce chapitre 2 de l'épître de Jacques, Jacques dit que nous ne sommes pas justifiés par la foi seule. Et Paul ne le dit jamais. Donc, il faut arriver à concilier tout ça. Un autre auteur qui dit quand même la même chose, et je le rappelle, c'est Pierre. Dans sa deuxième épître de Pierre, chapitre 1, je le rappelle, il dit « Tout ce qui contribue à la vie et à la piété nous a été donné au moyen de la connaissance du Fils, afin que par lui ou par elle, suivant qu'on parle de la piété ou de Jésus, nous devenions participants de la nature divine en fuyant la corruption qui est dans ce monde. » Donc là d'emblée, il y a le thème, cher à Calvin, de l'union à Jésus qui me rend participant de la nature divine par le partage commun de l'esprit pour fuir la corruption qui est dans le monde. Et Pierre continue, c'est pourquoi efforcez-vous, faites tous vos efforts, soyez diligents pour ajouter à la foi la vertu, la connaissance, la tempérance, la maîtrise de soi, l'amitié fraternelle et l'amour. L'amour qui accomplit la loi. Et Pierre dit, si ces choses-là sont en vous et y sont avec abondance, cela ne vous laissera ni stérile, sans fruit, ni oisif, sans œuvre, devant Dieu. Mais il rajoute immédiatement, mais si ces choses-là ne sont point, ce que je comprends ainsi, il n'y a que la foi qui est seule, mais il n'y a pas toutes les choses pour lesquels nous devons faire des efforts pour parvenir jusqu'à l'amour, la tempérance, la maîtrise de soi, la connaissance, l'amitié fraternelle, la philadelphie et l'amour. Si ces choses-là ne sont pas présentes, qu'est-ce qu'il est dit dans la deuxième épître de Pierre? C'est quelqu'un qui a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Et Pierre va même rajouter, c'est comme une terre que l'on a arrosée et qui ne porte pas de fruits. Parabole du semeur ou des terrains, allusion directe à ce que disait Jésus à propos des quatre terrains. Donc voyez que Pierre est en train de dire la même chose. Sans toutes ces choses qui nous mènent à l'amour qui accomplit la loi, la foi demeure seule. On a expérimenté la purification des péchés, mais on ne va pas plus loin. La marche s'arrête. Je rappelle que beaucoup de passages dans l'Écriture disent qu'on peut bien commencer et mal finir. Donc c'est la fin qui compte, c'est pas le début. Donc vous voyez que Jacques et Pierre nous disent la même chose. Et je vais citer un petit peu plus tard également l'épître de Jean, qui dit encore la même chose. Alors je vous petite parenthèse, dans la Pshita, donc le texte araméen du Nouveau Testament, c'est intéressant de voir que Jacques, Pierre et les épîtres de Jean sont situés juste après le livre des Actes. Et ensuite il y a toutes les épîtres de Paul jusqu'à l'épître aux Hébreux. C'est intéressant que ces épîtres extrêmement pratiques de Pierre, de Jacques et de Jean sont juste après le livre des Actes. Vous voyez, c'est très concret. Et ensuite, on a les épîtres de Paul. Je réalise vraiment ces derniers temps combien l'épître de Jacques est fondamentale pour corriger un travers dans nombre de nos milieux. C'est cette question de foi seule. Donc il faut vraiment clarifier ça. Comme je l'ai dit maintenant, ce n'est pas de n'importe quelle œuvre dont on parle. Hein, parce que les œuvres de la loi ou les œuvres religieuses et les bonnes œuvres, nombre d'églises se lancent là-dedans. Mais remarquez ce qui se passe. L'homme propose, on va proposer des œuvres et on demande à Dieu de bénir. Hein, donc on fait notre volonté et on demande à Dieu de bénir notre volonté. Hein, ça c'est une manière de rendre témoignage par contraste. On ne sait pas ce que c'est que la marche par l'esprit. Mais cela marche par l'esprit, comme il est dit d'Abraham. Il partit sans savoir où il allait aller. Donc, la marche par l'esprit, c'est une aventure. On ne sait pas où on va. Mais le Seigneur met au fur et à mesure devant nous les œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et c'est ça qui accomplit la justice. Et des œuvres très pratiques et très concrètes. C'est le psaume. Qui a lu le psaume? C'est toi qui as lu ce psaume. Voilà, le psaume 15. Toutes les prescriptions du psaume 15 sont extrêmement pratiques. Il ne faut pas croire que Jésus est venu pour abolir la loi. Il est venu au contraire pour nous rendre capables d'accomplir cette justice-là. C'est très important. Alors maintenant, de quelle œuvre parle-t-on? Là, je vais aller au cœur du sujet et ensuite on bascule vers Paul. C'est lorsqu'Abraham a offert son fils, était prêt à offrir son fils, qu'il est déclaré que la foi d'Abraham a été, la justice d'Abraham a été accomplie. Et donc là, on touche à quelque chose de très particulier. Je vais d'emblée donner la réponse, entre guillemets. Donc, il va donner le fil conducteur. On voit qu'Abraham, quand on étudie la vie d'Abraham, il a toujours été confronté à la question de la mort. D'abord par la stérilité de Sarah, et donc la mort figurée du couple, puisqu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Dieu a attendu qu'Abraham vieillisse, et qu'il, comme il est dit dans dans l'épître de Paul qu'on va lire après, il a attendu que Abraham soit presque sans espoir naturel d'avoir des enfants. Il était trop vieux, il considérait que son corps était usé, mais il garda la foi. Donc la question de la stérilité et de la mort. Mais beaucoup plus que ça, la question de la mort s'est jouée au moment où Dieu lui a dit « Tu vois ton fils, ton unique, là, celui que tu aimes, mène-le sur le mont Moria et offre-le-moi en sacrifice. » Les boyaux d'Abraham qui se tordent. Vous voyez? Là encore, il est confronté à la question de la mort. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Attends, je comprends pas. D'un côté, Dieu m'a donné une postérité, et il me demande maintenant de la sacrifier. Humainement, contradiction. Il pensait que Dieu était puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Pourquoi est-ce que Dieu a mis Abraham à l'épreuve dans Genèse 22 pour faire naître dans le cœur d'Abraham la pensée que la mort n'est pas une fin, mais qu'il y a une résurrection derrière. C'est pour cela que Dieu a mis Abraham à l'épreuve, pour qu'il arrive à la pensée de la résurrection. On vient de parler pas mal de la foi ce matin. C'est quoi la foi selon la parole? La foi selon la parole, c'est en regardant Jésus. La foi selon la parole consiste à regarder à Jésus, et non seulement à regarder à Jésus, mais à m'attacher, à m'unir à lui pour qu'il m'entraîne dans sa mort, avec la foi qu'il va m'en faire ressortir vivant. Et ça, c'est la clé de la pensée de Paul. C'est ce que je vais développer maintenant. Et là, on comprend que ressortir vivant, en étant uni à Jésus dans la mort, accomplit la parole de justice qui a été prononcée au départ. Et sans laquelle, la foi demeure effectivement seule et ne porte pas de fruit. Donc la clé, comme pour Abraham, c'est la question de la mort et de la résurrection en l'union à Jésus. Et donc, lorsque Paul va parler de la même chose, il va repartir du même point de départ dans Romains 4, Genèse 15. Romains 4, versets 1 à 5. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre ancêtre, a obtenu selon la chair? En effet, alors, pour que ça soit bien clair, à chaque fois que le mot œuvre apparaît, je vais préciser à chaque fois si c'est œuvre de la chair ou œuvre de la loi, ou œuvre de l'esprit, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc là, je me permets de rajouter, mais c'est juste pour expliciter les termes. Si Abraham a été justifié par les œuvres, lesquelles? Alors, là, tout le discours de Paul est basé sur l'opposition entre la foi, mais qu'il faut définir, et les œuvres de la loi. Donc, si Abraham a été justifié par les œuvres de la loi, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Or, celui qui travaille, le salaire n'est pas compté comme une grâce, mais comme une chose due. Tandis que celui qui ne travaille point pour les œuvres de la loi, donc il ne cherche pas sa propre justice, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Et donc, premier point, Paul bâtit tout son argument sur une opposition entre la grâce et la foi qui justifie, et les œuvres de la loi qui ne produisent qu'une propre justice. Tandis que Jacques va bâtir son opposition entre une foi seule, qui reste morte, et une foi obéissante jusqu'à la mort, qui accomplit la parole de justice. Donc vous avez la foi seule d'un côté, qui reste morte, thèse. Vous avez les œuvres de la loi qui ne justifient personne, antithèse. Et vous avez cette foi qui est accomplie par l'esprit, par les œuvres de l'esprit. Toujours une triade. Donc, c'est important de comprendre que Paul et Jacques ne bâtissent pas les mêmes oppositions. Je le répète, Paul, c'est entre la justice et la grâce et la foi d'un côté versus la propre justice de la loi de l'autre, alors que Jacques bâtit son opposition entre foi morte, foi vivante, pour faire simple. Vous voyez ? Autrement dit, les œuvres mortes de la loi que Paul condamne, puisque la loi n'a jamais mené quelqu'un à la vie, ne sont pas les œuvres de l'esprit que Jacques met en avant. Donc la question qui se pose maintenant, c'est la suivante. Lorsque Paul parle de la foi, parle-t-il bien de la même foi que celle de Jacques? Une foi obéissante qui mène à la marche par l'esprit? Dès qu'on connaît l'Épître aux Romains, on sait que oui. Mais comment est-ce que Paul va tracer ce chemin? Donc, je vous donne d'emblée l'essence de la logique de Paul, et ensuite on va la développer un peu. Paul, dans Romains 4, il repart à partir d'Abraham. Même parole, Abraham crut à l'Éternel, et cela lui fut imputé à justice. Même point de départ que Jacques. Mais ensuite, que fait Paul? Il nous parle de Jésus. Jésus. Jésus, Romains 4, Jésus, Romains 5. Autrement dit, il est en train de dire, pour arriver à l'accomplissement de cette parole de justice, ça passe par Jésus. Ça passe par l'œuvre de Jésus à la croix. Ça passe par son offrande à la mort et suivi de sa résurrection. Ça passe par le fait qu'il devient le nouvel Adam dans lequel il nous engloutit pour payer le salaire du péché, de notre péché, qui est la mort, afin de pouvoir nous en faire ressortir vivants par la puissance de sa résurrection. Bon, il part du même point de départ, Genèse. Il développe ensuite l'œuvre de Jésus, deuxième partie de Romains 4 et Romains 5. Et ensuite vient la partie que nous n'aimons pas, c'est Romains 6. Pourquoi? Parce que Paul, dans Romains 6, nous dit que pour goûter à la vie de résurrection, il faut d'abord être uni avec lui dans sa mort. Et c'est là, en fait, qu'est le problème, je pense. Notre problème est le suivant. Nous ne voulons pas mourir. Nous ne voulons pas mourir aux convoitises de notre chair. Nous ne voulons pas mourir à notre volonté propre. Nous ne voulons pas nous unir à Jésus en sa mort. Mais on est très heureux, par contre, de proclamer sa vie, de proclamer tout le reste. Sauf qu'on oublie que pour expérimenter la vie, il faut d'abord connaître sa mort. Or, en fait, notre chair religieuse fait exactement l'inverse. Vivant en Christ, et puis la mort, on verra petit à petit. En fait, on inverse les choses. Donc, pour bien le faire clair, notre chair religieuse recourt à un artifice. On proclame, par exemple, la foi seule. La foi seule au moment où le Seigneur nous appelle. D'accord ? Donc, au moment où le Seigneur nous appelle, dans notre tête, on sépare la foi de l'œuvre de la foi. On est en train de séparer ce que Dieu a uni. On sépare la foi de l'obéissance. On sépare ce que Dieu a uni. Une foi qui n'est pas obéissante, ce n'est pas une foi. C'est juste un credo. Et Jacques nous dit que les démons aussi y croient. Sauf que eux, ils tremblent. Donc, ce n'est pas une question de connaissance doctrinale, etc. C'est une foi obéissante. Je ne dis pas que c'est instantané, la foi obéissante. Précisément, il y a un processus pour que cette foi nous amène à l'obéissance. Et ce processus passe par notre mort pour ressusciter en nous. De la même manière, on sépare la justification de la sanctification. Je suis justifié par la foi seule, et puis la sanctification se fera petit à petit. Et on est en train de changer le sens de ce qu'est la sanctification. Parce que la sanctification, c'est l'entretien de la vie de l'esprit en nous, c'est la marche par l'esprit. Et on confond la sanctification avec la repentance, qui est précisément ce qui nous amène à la mort. Pour pouvoir ensuite marcher par l'esprit, et nous maintenir dans l'esprit. Or, Paul a dit dans 1 Corinthiens 1, verset 30, « Qu'en Jésus nous trouvons la sagesse, la justification et la sanctification. » Et Calvin va rajouter, « On ne peut pas couper Jésus en deux. On reçoit Jésus en entier, avec sa justification et sa sanctification, ou on ne reçoit pas Jésus du tout. » Donc, en voulant mettre la foi seule comme base de justification, on la met à l'appel. On supprime l'obéissance, on supprime la sanctification, on sépare ce que Dieu a uni. Mais on voit bien par conséquent que pour unir ces choses-là, ce n'est pas au moment de l'appel que l'accomplissement de la justice s'effectue. Vous voyez ? Et donc de la même manière, on va... Alors par contre, on fait l'inverse. Donc comme je l'ai dit, on sépare ce que Dieu a joint et on va joindre ce que Dieu sépare. Par exemple, donc là, je vais dire des choses controversées. Mais la nouvelle naissance n'a pas lieu au moment de l'appel. Étudiez la parole. C'est un processus qui nous fait passer de la mort à la vie. À l'appel a lieu donc la justification par la foi, mais cette foi ne peut pas rester seule. Donc, il y a quelque chose qui doit se passer pour que cette foi, cette justification soit accomplie. Alors évidemment, quand on met tout à l'appel, eh bien, on va dire également que nous sommes morts positionnellement en Christ. Et puis, on verra dans la pratique après. On commence à entrer dans des artifices. Plutôt que d'entrer dans ce processus de mort par union avec Jésus pour ressortir vivant avec lui, on déclare d'emblée, puisqu'on veut tout mettre au moment de l'appel, eh ben, évidemment, l'œuvre de Dieu n'a pas commencé en nous, donc je suis positionnellement mort. La foi seule. Contre ce que dit Jacques. Voilà. On met tout au début. Pourquoi est-ce qu'on met au début? Je l'ai dit la dernière fois. Parce que notre chair cherche à être rassurée. C'est intéressant que chaque fois qu'on touche à ces questions, je l'ai expérimenté, hein, à chaque fois, on me répond ceci. Ah oui, mais alors, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas sauvé? Mais alors, c'est quoi la doctrine de l'assurance du salut? Et moi, je me dis d'emblée, mais quelqu'un qui pose cette question-là, il y a un sérieux problème. Parce que Paul nous dit dans Romains 8 que c'est l'Esprit qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas une question de doctrine, ce n'est pas une question de bourrage de crâne ou de méthode Coué. C'est l'Esprit qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et quand est-ce que l'Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu? Quand nous marchons par l'Esprit. Et à partir de là, on peut raconter ce que l'on veut à quelqu'un qui marche par l'esprit, des arguments doctrinaux, théologiques et je ne sais pas quoi. On revient à la parole, non? L'esprit atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Sur quelle base? Sur la base de la communion avec Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. Ce n'est pas du virtuel, ce n'est pas du positionnel. Parce que si c'était le cas, alors il y a des tas de propos de l'écriture qui n'auraient plus aucun sens. Exemple. Faut que je retrouve mes notes, je suis désolé. Sinon, je le cite de mémoire. Ah, voilà. Comme je l'ai dit, Romains 4, Abraham. Deuxième partie de Romains 4 et Romains 5, l'œuvre de Jésus à la croix, incontournable. On ne peut pas avoir la suite si on ne passe pas par l'union à Jésus en sa mort et sa résurrection. C'est ce que l'on vient de célébrer avec le pain et le vin. Et ensuite, dans Romains 6, il commence d'emblée comme ça. Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? La grâce n'est pas une excuse pour le péché. C'est au contraire ce qui nous en sort. Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Certainement pas. Nous qui sommes morts au péché, vivrions-nous encore dans le péché ? Nous qui sommes morts au péché, positionnellement, ou parce qu'on s'est repenti pour s'unir à Jésus à la croix en sa mort, afin de ressortir avec lui, vivant par l'Esprit ? Pas du tout la même chose, hein ? Et donc la grâce de Dieu n'est pas une excuse pour le péché. Si elle l'est, c'est ce que Bonhoeffer, donc Dietrich Bonhoeffer, théologien allemand, luthérien, première moitié du XXe siècle, appelait la grâce bon marché. Si on croit que la grâce de Dieu, c'est juste pouvoir continuer à vivre notre propre vie, faire notre propre volonté et manifester les œuvres de la chair, mais c'est pas grave parce que Dieu pardonne. Vous voyez ? Ça, c'est la grâce bon marché que dénonce Bonhoeffer. Et il la met en opposition avec la grâce qui coûte, comme on l'a dit, et c'est la logique de Paul. Ça coûte d'abord la vie de Jésus, puisqu'il est le seul qui pouvait encaisser le péché du monde en tant qu'agneau de Dieu, pour en ressortir 3 jours après, par la puissance de l'Esprit, la puissance de la résurrection. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ça nous coûte également notre vie, si nous voulons expérimenter cette vie de l'Esprit. Vous voyez ? Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Calvin. Tout se joue dans notre vie chrétienne, dans la quête de l'union avec Jésus. Nous n'avons qu'une seule chose à faire. C'est pour ça que l'évangile, il est pour les petits-enfants. C'est pas compliqué à comprendre. Cherchez Jésus. Si vraiment Jésus s'est manifesté à nous lors de l'appel, pour moi, le 22 août 87, d'un seul coup, c'est Jésus. S'il s'est manifesté à nous dans l'appel, nous n'avons plus qu'un seul désir, communier avec lui. Alors par contre, je précise bien, Paul, le brigand sur la croix, le renversement s'est fait en quelques heures, et il était prêt à entrer dans le paradis. Puisqu'au départ, avec l'autre, les deux étaient en train de... Et à un moment donné, l'un des deux prend conscience. « Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. » Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui même, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis de Dieu. » Ça a pris quelques heures. L'apôtre Paul, 3 jours. Entre le moment où il est frappé et le moment où il est 3 jours retourné. Les disciples, 3 ans et demi. Hein, et même Pierre, il a failli à la fin. Voilà, mais le Seigneur l'a relevé. 3 ans et demi. Moïse, 40 ans. 40 ans de désert avant de revenir à 80 ans devant Israël pour le sortir de l'Égypte. Donc, ne soyons pas focalisés sur le temps qu'il nous faut pour s'unir dans sa mort et en ressortir vivant. Voyez ? Quand on entre dans ce processus, je vous l'ai dit, mes frères et mes sœurs, on ne se pose pas la question de l'assurance du salut. Pourquoi ? Parce qu'il y a Jésus qui est là et qui nous attire, nous enseigne par la parole. Je vais vous montrer après comment, très important. Il nous enseigne par sa parole, il nous attache à lui. Tout dépend de notre vie. Il y a des gens, des personnes qui ont une vie confortable. J'entends par là pas de traumatisme, pas de gros drames. Et pour qui la mutation peut aller relativement rapidement. Il y en a d'autres qui ont des kystes dans la chair, des nœuds qu'il va falloir longtemps avant de délier et crucifier. Parce qu'ils sont des nœuds de victimisation et il faut du temps pour sortir de la propre justice. Donc, quelques heures à des années, ne soyons pas focalisés sur la durée. L'important, c'est d'en ressortir vivant avec Jésus. Or, la chair religieuse veut absolument cette assurance-là au tout début de la vie chrétienne. Or, l'assurance au tout début de la vie chrétienne, elle se met en place à condition que j'ai véritablement rencontré Jésus. Et auquel cas, il est le chemin. Le chemin, comme j'aime bien le dire dans Jean 3, alors en paraphrasant l'araméen, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin dans le désert qui mène au rocher d'où jaillit l'eau de la vie. C'est ça l'image qui est suggérée par l'araméen. Je suis le chemin dans le désert. Pensez au Deutéronome. L'Éternel qui dit, je veux vous attacher à moi et que je m'attache à vous. Hein? S'attacher, s'unir, la communion. Après, ça prend le temps que ça prend. Mais, donc l'assurance, elle vient d'où? Elle vient de ce face-à-face avec Jésus, de ce chemin qui est Jésus, avec qui on marche. Et si on est dans cette marche-là, ben, qu'importe où j'en suis dans les différentes étapes de ma vie chrétienne, c'est lui qui compte. Vous voyez, Jésus est un chemin. Il est même le chemin. Et encore plus précisément, le chemin étroit qui nous mène à la vie, qui nous mène aux œuvres de l'Esprit, qui nous mène à la marche par l'Esprit. Mais il y a deux pôles là qu'il faut éviter, comme dans la mythologie grecque, l'Odyssée, pour ceux qui connaissent, Charybde et Scylla, les œuvres de la chair, oh, mais c'est pas grave. Ça s'appelle l'antinomisme en théologie. On va dire, oh, mais c'est pas grave, de toute façon, on est pécheur, on va toujours pécher, hein. Mais c'est pas grave, parce que Dieu pardonne. L'antinomisme, laxisme, d'un côté. Et puis, évidemment, il y a les légalistes pharisiens de l'autre. Antinomisme, légalisme. Et il faut trouver le chemin, parce que notre chair est très confortable. Antinomiste, par tout sens, c'est comme ça, hein. Et puis on est pécheur, on va toujours pécher. J'ai corrigé ce que je viens de dire après, hein. Il faut aller jusqu'au bout de la parole. Et de l'autre côté, le légaliste pharisien qui va prendre soin de bien nettoyer l'extérieur, et plus il le fait, plus l'intérieur est pourri. Hein? Toujours pareil. Hein? La thèse, l'antithèse, et une troisième voie. Le mal, le bien, la vie. Les deux arbres du jardin. Donc Paul est très clair. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certainement pas. En araméen, c'est « has ». Ça veut dire « pitié, non !» C'est ça que ça veut dire. « Pitié, non !» C'est l'exhortation qu'il donne aux Romains. « Pitié, non !» Verset 15. « Pécherons-nous parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce ?»« Race !»« Pitié, non !» Donc, si on continue à vivre dans le péché, il faut qu'on se pose une question. Avons-nous connu la grâce de Dieu ? Sommes-nous encore sous la loi ? Puisque Paul va dire par ailleurs dans 1 Corinthiens 15 que la puissance du péché est dans la loi. Or la loi exerce son autorité sur l'homme, Romains 7, tant que l'homme vit. Donc on voit bien que le seul moyen d'échapper à la puissance du péché, c'est de mourir. C'est comme ça qu'on échappe à la puissance de la loi, à la condamnation de la loi. C'est ce que dit Paul dans Romains 7. Alors je pourrais reprendre le passage qu'a lu Abdel ce matin. Cet antagonisme en la chair, entre la chair et l'esprit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Alors, quelle est la voie de sortie de ça? Là, c'est bien beau ce que je viens de dire, mais là, je ne vous ai pas encore donné les moyens pratiques pour sortir de ça. Eh bien, la première chose, la première pensée que j'ai eu deux pensées, en fait. La première, c'est la suivante. Le vrai dilemme de la vie chrétienne, alors là je vais vous choquer, n'est pas le péché versus ne pas pécher. Pourquoi? Parce que, et je suis arrivé à ça en fait à nouveau par l'Ancienne Alliance, qui nous enseigne, et qui distingue entre les péchés volontaires et les péchés involontaires. Ce qui veut dire que la véritable problématique de notre vie, c'est la question de la volonté. Voulons-nous servir Dieu ou pas? Notre foi est-elle obéissante ou pas? Si notre foi est obéissante, nous ne péchons plus volontairement. Par contre, nous sommes nés dans la chair, dans un monde corrompu. Quelqu'un qui a par exemple un désordre neurologique, voilà, il va y avoir des choses qui vont se passer éventuellement, qui relèvent de la chair, qui en tant que tel nous condamne, mais qui ne relèvent pas du péché volontaire. Ça, c'est important à comprendre. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas la distinction, à nouveau, on se transforme très très vite en pharisien. La moindre imperfection que je vois chez l'autre, il a péché. Elle a péché. Et on se met à se surveiller les uns les autres, selon un critère non pas de soumission à la volonté de Dieu, mais de perfection selon nos conceptions à nous. Et on se met à chercher du péché partout. Je parle en connaissance de cause, on a connu un tel milieu. Je me tourne vers mon beau-frère. On a connu un tel milieu où les gens se surveillaient les uns les autres et le moindre écart par rapport à ce que je considère être la perfection de la vie chrétienne, paf, il a péché. Voilà, c'est ça. Alors après, on se mousse évidemment parce que lui, mais pas moi. Hein. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et là encore, triade. Entre le laxiste qui considère que le péché est normal et le perfectionniste qui pense qu'on ne peut plus pécher du tout, du tout, du tout, il y a, je pense, la troisième voie. Mettons à mort les péchés volontaires par l'obéissance à Jésus. Et le reste, on le laisse à la grâce de Dieu. Pourquoi ? C'est le seul moyen que j'ai, par exemple, de comprendre cette parole. L'amour couvre une multitude de péchés. Ah oui, mais attendez, la parole dit bien, pourtant je dois confronter le péché. Ah oui, si ton frère a péché, va y reprends-le. S'il ne t'écoute pas, amène un deuxième. S'il ne t'écoute toujours pas, dis-le à l'église. S'il n'écoute pas l'église, mets-le dehors. C'est radical, hein ? Les péchés volontaires. L'amour va couvrir les péchés, j'allais dire involontaires, c'est-à-dire les péchés qui relèvent de l'imperfection due à notre chair. Mais l'amour ne couvre pas les péchés volontaires. Elle ne couvre pas la désobéissance volontaire. Parce que c'est celle qui mène à la ruine. C'est celle qui fait que l'on peut bien commencer et mal terminé. J'avais cité la dernière fois Hébreux 6. Considérez tous ceux qui ont été éclairés par la parole de Dieu, qui ont goûté aux puissances à venir et qui retournent dans le péché. Un péché volontaire. Là, il est dit, il n'y a plus de grâce, il n'y a plus de... Comment il est dit exactement ? Il est impossible que celui qui... Voilà, revienne et retourne. Exactement, parce qu'il a déjà crucifié Christ pour sa part. Donc vous voyez, c'est sérieux, hein. Et donc ça se joue pas. Il faut arrêter de se regarder, j'ai péché, j'ai pas péché, il a péché, elle a pas péché. Là, on tombe dans un délire légaliste. C'est, est-ce que je cherche à obéir? Quand le Seigneur me convainc d'un péché volontaire, parce que, hein, est-ce que je la porte devant le Seigneur? Pour pouvoir délivrer de ça et pouvoir servir Dieu par l'Esprit. Je vais être encore plus précis. Et là maintenant, on va au cœur de ce que je veux dire ce matin. Quand Paul dit dans Romains 6, « Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde ?» Ah oui, mais ma théologie me dit que positionnement, je suis déjà mort en Christ, etc. On a émoussé le couteau. Quand Paul dit, « Ayant été affranchi du péché et devenu esclave de Dieu. » Ah oui, mais affranchi du péché parce que Jésus est mort à la croix, non, mais moi, ça sera petit à petit. On a émoussé la parole de Dieu. Quand Jean dit dans sa première épître, « Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. » Et il ne peut pas pécher, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Ah oui, mais attends, du moment où j'ai cru, je suis déjà né nouveau, donc... Et on entre à chaque fois dans des raisonnements, et on empêche la parole de Dieu d'agir dans notre vie, c'est-à-dire de devenir un couteau tranchant à deux tranchants, capable de séparer l'âme de l'esprit et de mettre à nu les profondeurs, les motivations du cœur. En fait, c'est à cela que sert notre chair religieuse, c'est à rendre la parole de Dieu inefficace. Donc, c'est quoi le chemin de délivrance ? J'accepte ce que dit la parole de Dieu. C'est ça, le début de l'obéissance, c'est d'accepter ce que dit la parole de Dieu. Et là, on découvre que la parole de Dieu, elle est tranchante. Et on découvre que Hébreux 4, 12, auquel je viens de faire allusion, est en train de parler de l'œuvre de circoncision. C'est le couteau qui va couper, mettre à nu les pensées et les motivations du cœur, séparer l'âme de l'esprit. Donc on voit bien qu'il y a une différence entre l'âme et l'esprit. Séparer les deux pour justement permettre la marche par l'esprit. Et quand on est dans ce processus-là, alors on comprend ce que dit Jésus dans Jean 13 en disant à ses apôtres, vous êtes purs. Mais je dois juste maintenant, quotidiennement, vous laver les pieds, la poussière qui est sur vos pieds. Mais vous êtes déjà purs. Notre marche dans le monde ne sera jamais parfaite. Donc oublions le mot parfait, et tant mieux, parce qu'en araméen on ne parle pas de perfection, on parle de maturation, de maturité. Devenons mûrs et adultes, et non pas parfait. Ce qui renvoie à une espèce d'idole à laquelle on se mesure et à laquelle on ne peut pas se comparer. Ou alors plutôt, je dirais, malheur à ceux qui se pensent parfaits, dans ce sens-là. Ça veut dire sans péché, en pratique. Non. Voilà. Il y a ce compromis-là, il y a cette voie-là, voie étroite, du péché volontaire qui doit être mis à mort. Et après, nous marchons dans ce monde. Nous avons, comme le dit la parole, des infirmités et des faiblesses. Dieu va même se servir de ses infirmités et de ses faiblesses, 2 Corinthiens 12, pour permettre l'accomplissement de sa volonté au travers de nous. Donc, il ne faut pas avoir peur de la faiblesse, il ne faut pas avoir peur de l'infirmité, c'est ce que Dieu va utiliser. À cause de l'excellence des révélations que Dieu m'a faites, et afin que je n'enfle pas d'orgueil, Dieu a mis une écharde dans ma chair, un agent de Satan, un ange de Satan, pour me souffleter. 3 fois, j'ai demandé à l'Éternel, au Seigneur, de l'éloigner de moi. 3 fois, il m'a répondu, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Vous voyez ? Donc, il faut bannir, je pense vraiment, bannir le mot « perfection », parce que ça envoie dans des voies de garage, en général vers le légalisme et le pharisaïsme. Mais il faut garder, faire la volonté de Dieu, et donc pour pouvoir entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et donc je pense vraiment la clé, c'est la confrontation au tranchant de la parole de Dieu, que l'on arrête une bonne fois de trouver des excuses et des raisonnements pour adoucir, émousser, user le tranchant de la parole, de telle manière à ce que cette parole ne nous fasse plus mal. Alors on pourrait dire maintenant, c'est mon avant-dernier point, on pourrait dire maintenant, ah oui, mais bon, ça va se faire petit à petit, tout au long de notre vie, jusqu'au moment où on meurt. On entend ça aussi. Déclarer juste par la foi seule, et puis le reste, ça prendra tout le temps de la vie. Alors, je vais vous lire un passage, et il y en a d'autres, mais je gagne du temps. Et vous allez me dire si c'est bien ce que ce passage est en train de dire. Le Messie ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de cette même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre dans les jours qui lui restent à vivre dans la chair, non plus selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Est-ce que ça a lieu au moment où on meurt, ou est-ce que ça a lieu avant? Ça a lieu avant, puisqu'il est parlé de ce temps qui nous reste ensuite, tant qu'on est dans la chair et dans ce monde, pour pouvoir désormais marcher selon la volonté de Dieu, et non plus les convoitises des hommes. Ce que exactement Pierre disait dans sa première épître, quand il est dit, il nous rend participants de sa nature divine afin de fuir la corruption qui est dans le monde. C'est pas pour devenir des dieux, mais c'est pour pouvoir fuir la corruption qui est dans le monde afin de pouvoir faire la volonté de Dieu. Donc là, c'est ce que dit également Pierre dans la première épître au chapitre 4. Je le répète, pour vivre dans le temps qui lui reste à passer dans la chair, non plus selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Et c'est là qu'il y a donc une bascule, quelque part, et qui, comme je l'ai dit, va prendre le temps qu'il faut. Il ne faut pas s'inquiéter de ça. On a des histoires différentes, des personnalités différentes, des passés différents. Ça prend le temps qu'il faut, mais il faut être sur ce chemin-là. C'est ce qu'il nous dit, ce passage-là, et il y en a d'autres, qui marquent cette bascule. Donc vous voyez que tout ça, ce n'est pas positionnel. Ce n'est pas virtuel. Il faut que cela s'incarne dans notre vie. Et c'est dans la mesure où cette parole tranchante s'incarne dans notre vie que la parole de justice prononcée à l'appel, cette foi initiale, si je puis dire, va s'accomplir, comme le dit Jacques, et on se met à marcher par l'esprit, et on se met à faire les œuvres de Dieu. Non plus les nôtres, mais les œuvres de Dieu. Et plus fort que ça, c'est pas nous qui faisons les œuvres de Dieu, c'est Jésus qui les a accomplis en nous par l'union à lui. C'est tout le thème, relisez, là je n'ai pas le temps, relisons Romains 6, Si nous sommes unis avec lui dans sa mort, nous serons également unis à lui dans sa résurrection. Ne faites pas de vos membres des instruments d'iniquité, mais par l'union à Jésus, faites de vos membres des instruments de justice. Ce qui veut bien dire que Jésus, depuis 2000 ans, continue à œuvrer comme il l'a fait pendant son ministère terrestre, au travers de celles et ceux qui s'unissent à lui pour offrir leurs membres, leur corps, leurs pensées, leurs désirs comme instruments de justice. C'est ce qui accomplit la foi. C'est ce que nous dit Jacques. Donc vous voyez que dans l'enchaînement de Romains 4 à Romains 8, Romains 4, même point de départ, Romains 4, deuxième partie, Romains 5, Jésus, l'œuvre de Jésus à la croix, le premier Adam, le nouvel Adam, tout ce que Jésus a fait, qui permet Romains 6, l'union à Jésus en sa mort et en sa vie, et l'union en sa mort pour ressortir vivant avec lui, c'est l'accomplissement de la justice dont parle Jacques. Donc en fait, Paul développe ce que Jacques dit en une formule. Crac ! La foi seule est morte. Et Paul le développe. Pas étonnant que Pierre dise que Paul a des fois des choses un peu compliquées à comprendre, et si on en tord le sens, c'est pour notre propre ruine. Parole de conclusion. Petit témoignage avant. Une minute. Après le dernier message, j'ai rencontré un pasteur réformé. Quelqu'un que je connais, j'apprécie, qui est lui-même pasteur réformé, fils de pasteur réformé, très calviniste, dans le bon sens du terme. C'est lui qui m'a éclairé beaucoup sur la compréhension de Calvin. Et qui s'est converti à 30 ans. Alors qu'il connaissait tout de la doctrine, mais à 30 ans, il a vécu une expérience de conversion. Et donc, chaque fois que j'ai des dilemmes théologiques, c'est à lui que je fais appel. Voilà, pour, parce que je dis, bon, je peux te dire, je peux être hérétique à tes yeux, mais il me dit, vas-y, vas-y. On a une grande liberté de parole. Et je lui ai résumé le message de la dernière fois. Donc, ce que j'ai dit à propos de Jacques, que c'est l'œuvre qui accomplit la justice, l'œuvre d'obéissance, l'œuvre de l'esprit. Je lui ai expliqué tout ça. Et je lui ai dit, mais comment ça se fait que cela dérange ce message-là? Comment ça se fait que Luther considérait l'épître de Jacques comme une épître de paille? C'était une écharde dans sa chair. Il aurait bien voulu se débarrasser de l'épître de Jacques. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? D'emblée, direct, je vous le dis mot à mot. Parce qu'il cherche une excuse pour continuer de pécher. Ça a été direct. Et là, j'ai traduit ensuite avec mes propres mots, parce qu'on refuse la mort. On refuse la mort. Notre chair ne veut pas mourir. Conclusion. Juste un seul passage, avec un petit commentaire, et on arrête là. Je viens de le dire. Romains 4, Abraham. 4, 5, Jésus. Romains 6, l'union en sa mort à sa vie. Je n'ai pas développé Romains 7, parce que là, il nous donne un chemin. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire dans Romains 7? La puissance du péché, la puissance de la loi agit tant que l'on est vivant. Donc, il faut mourir si on veut être dégagé de la puissance de la loi, qui est en fait la puissance du péché. Dès que nous sommes appelés, et c'est parfaitement normal, nous passons tous par une phase légale. C'est-à-dire, on essaye de sauver notre peau. C'est normal. Et on va essayer de faire le bien, et plus on essaye de faire le bien, moins on y arrive. Et plus on veut chanter le mal, et plus on tombe dedans. Toute phase initiale de la vie chrétienne commence par ça. On essaye de se dépatouiller pour se vivre. Le pharisien en nous se lève. Mais c'est la grâce de Dieu, évidemment, il faut qu'il s'éteigne ensuite. Mais certains le demeurent. Certains restent dans cette pharisianisme. Non, il faut en sortir. Et comment on en sort? Misérable que je suis, qui va me délivrer de ce corps de mort? Ça y est, on a compris que c'est l'œuvre de Jésus qui va nous délivrer et que c'est en nous engloutissant avec lui dans sa mort qu'il va pouvoir, lui, nous faire ressortir avec lui dans sa résurrection. Ça y est, qui va me délivrer? Avant, c'était je. Regardez bien, Romains 7. Je. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas. Je. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais quand même. C'est pétri de vie propre, c'est pétri de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que la loi, c'est ça, hein. La loi, c'est l'expression de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. jusqu'au moment où on dit qui va me délivrer. Ça, c'est Romains 7. C'est le dilemme avec la loi par laquelle nous passons, le dilemme par lequel nous passons tous. Mais il ne faut pas y demeurer. Sinon, on tourne en rond dans le désert et on ne sort jamais du désert. Parce que c'est dans le désert qu'agit la loi. Dans le désert que la loi a été donnée. Et donc, ce passage pour conclure, une fois que j'ai bien explicité Romains 4, 5, 6 et 7, qu'est-ce qui vient après 7 ? 8. Mais écoutons bien ce que dit Paul. Là encore, on le lit tellement rapidement. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui, par Jésus le Messie, ne marchent plus selon la chair. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus le Messie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est un conflit de loi. Car chose impossible à la loi, parce que la chair l'a rendait infirme. Donc là, on a Romains 4 et Romains 5. Dieu a envoyé son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, à cause du péché, afin de condamner le péché dans sa chair, Romains 5. Et là, maintenant, écoutons bien, je termine avec ça, mais je vais le répéter deux fois pour qu'on comprenne. Afin que la justice ordonnée par la loi soit accomplie en nous qui marchons selon l'esprit. La justice est accomplie dès lors que l'on se met à marcher par l'esprit et non pas tant que l'on continue à être dans la chair. Et ça, c'est exactement ce que dit Jacques. C'est exactement ce que dit Jacques. Pour que la loi de l'esprit de vie soit activée, il faut que je sois passé par la mort en union avec Jésus. Et c'est la manifestation de la loi de l'esprit en vie qui va, un, m'affranchir de la loi du péché et de la mort, et deux, va accomplir l'œuvre de la justice dont parle Jacques. Puisque je le rappelle, et je termine avec ça, quand Jacques parle de l'œuvre de la foi, c'est la mort et la résurrection. Dieu a suscité en Abraham la foi que s'il mettait son fils à mort, Dieu le lui rendrait par la résurrection. Et c'est ça la foi qui nous permet de nous unir à Jésus en sa mort pour en ressortir avec lui par l'Esprit vivant. Vous voyez ? Donc il y a bien un processus. Mais si on déclare que tout ça est vrai au moment de l'appel, au moment de la révélation initiale de Jésus, qu'y a-t-il encore à chercher ? Ne soyons pas étonnés ensuite si on n'a plus de désir de chercher Dieu. On n'a plus le désir de chercher Jésus. Comment peut-on chercher ce que l'on croit déjà avoir ? À celui qui a, on donnera et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera tout ce qu'il pense avoir. À celui qui a, on donnera et il sera dans l'abondance. Pensons à ce que Jésus dit à la Samaritaine. L'eau que je te donnerai va devenir une source d'eau qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. À celui, celle qui a, on donnera et il ou elle sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, et là je reprends ce que dit Pierre, celui qui n'a pas ajouté à la foi la vertu, la tempérance, la connaissance, la maîtrise de soi, jusqu'à l'amitié fraternelle et l'amour, à celui qui n'a pas, donc il n'a que la foi seule, on notera ce qu'il pense avoir. Voilà, vraiment que le Seigneur... Voilà, après j'aurai d'autres choses à partager, mais on va arrêter là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et à nouveau, je le dis extrêmement sérieusement. Hein, que si ce qui est conforme, si ce que je dis est conforme à l'Écriture, qu'il l'atteste dans chacune de nos vies par son esprit. Et ce qui n'est pas conforme à l'Écriture dans ce qui vient d'être dit, j'en rendrai compte devant Dieu. J'en suis conscient, hein. Voilà, donc que le Seigneur puisse bénir sa parole. Seigneur, tout se résume à une seule chose. Connaître ton Fils et la puissance de sa résurrection pour être rendu conforme avec lui dans sa mort et en ressortir vivant par l'Esprit. C'est ce que dit Paul également dans un autre passage. C'est par cette puissance de résurrection que Jésus va pouvoir nous accompagner dans sa mort, nous attacher à lui dans sa mort
pour en ressortir vivant par son esprit. Donc tout est en lui, tout a été fait par lui, tout n'est possible que par lui, et notre pensée ne doit penser qu'à une seule chose, connaître Jésus, désirer Jésus, voir Jésus, ce qui fait notre espérance. On ne le voit pas encore, mais on le verra bientôt. On entrera dans sa gloire, on verra sa beauté, on verra sa puissance, sa sagesse, mais également sa douceur, sa compassion. Et tout cela, on peut le goûter dès maintenant par l'Esprit. Donc Seigneur, accompagne-nous dans ce chemin. Tu es toi-même ce chemin. Ne nous lâche pas la main. Ne persévère avec nous. Fais-nous grâce. Parce que c'est toi qui accomplis cette œuvre-là. On a besoin de toi jour après jour, heure après heure. Amen.